mon cher Blaise, j'imagine qu'il va être question ce matin, bien sûr, du 7 octobre, mais aussi de ce qui se passe sur le terrain, puisque nous sommes en ligne avec Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires. Je vous laisse en sa compagnie.
Bonjour Raphaël Jérusalemi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors oui, Didier, vous le disiez, dimanche, Raphaël Jérusalemi, sur le site i24 News en français, vous avez publié une analyse à l'occasion donc des un an du 7 octobre. Et on va faire un point sécuritaire avec vous là-dessus. Vous avez souligné la façon dont Tsahal, le Mossad et le Shin Bet ont surmonté tous les obstacles à la suite de cette attaque meurtrière du Hamas.
Oui, je pense qu'après la grave erreur qui a été commise et qui malheureusement a des conséquences, comme on le voit, à long terme, depuis, Tsahal et les services de sécurité israéliens se sont repris, et je dirais se sont beaucoup plus que repris. Ils ont retrouvé leur légendaire image de marque et ont commis des exploits et des prouesses militaires et d'espionnage sans précédent dans l'histoire humaine, même oserais-je dire, avec des actions inédites, surprenantes, qui devraient quand même inquiéter grandement l'ennemi. Je pense qu'aujourd'hui, même l'ayatollah Khamenei à Téhéran n'est pas tranquille dans ses savates.
On pense notamment à cette fameuse attaque au Beeper.
Exactement, et je peux vous assurer, sans rien dire, d'ailleurs je ne sais pas tout, hein, qu'il y a de très très mauvaises surprises qui attendent les Iraniens, qu'il y a sur place, parce qu'on parle beaucoup d'attaques aériennes, on parle beaucoup de cyber, mais il y a déjà sur place en Iran et à Téhéran des mauvaises surprises qui sont prêtes à être activées, détonées.
Tsahal également, on ressort grandi de cette guerre, on ressort renforcé.
Non, je pense que Tsahal fait son travail. C'est pas, ça n'a jamais cherché la gloire ou d'être. C'est l'armée du peuple, hein, c'est l'armée de tous les Israéliens. C'est quoi Tsahal? C'est véritablement Monsieur Levy et Monsieur Cohen et Madame. D'ailleurs aujourd'hui beaucoup de soldates aussi qui sont combattantes. Et donc Tsahal a fait son travail, le fait d'une façon honorable, avec beaucoup d'éthique. C'est l'armée la plus morale du monde, à mon avis. Aucune armée au monde ne peut égaler le minimum de dommages collatéraux en guérilla urbaine que Tsahal arrive à faire. Je rappelle qu'il y a une unité, l'unité 504, dont un département entier est voué à appeler par téléphone, par voie de radio, par des tracts, des personnes qui se trouvent dans des théâtres d'opérations dangereux, pour l'expliquer où et comment s'en aller, où aller se réfugier, que ce soit à Gaza ou au Liban du Sud. Tsahal est tout le temps en train d'expliquer aux populations civiles quelle est la meilleure façon de se prémunir de la violence des combats. Et donc, Tsahal, eh bien, c'est la fierté nationale. Tsahal a réussi à regagner la confiance, d'ailleurs, des Israéliens. Et je peux vous assurer qu'en ce moment même, nous sommes en train de changer la face du Proche-Orient.
Vous parlez également dans votre analyse de ces liens qui se sont resserrés entre les Israéliens et la diaspora.
Oui, bah, c'est évident, parce que d'un côté, les Israéliens se rapprochent de la diaspora en ayant vécu eux-mêmes un pogrom en bonne et due forme qui n'a rien envie au pogrom des Cosaques et des nazis, et donc ça les rapproche de ce sort tragique de la diaspora qui en a subi tellement et qui pourrait encore en subir avec la montée de l'antisémitisme. D'un autre côté, les juifs de la diaspora sont évidemment mis dans le même bateau contre leur gré ou avec leur gré, le même bateau que les sionistes, hein, par les antisémites de tous bords. Et donc, ça nous met tous effectivement ensemble, ça nous unit, ce qui a souvent été le cas. Hein, l'aversion, les Juifs aiment bien se disputer entre eux, ils sont jamais d'accord l'un avec l'autre, hein, c'est le principe même du Talmud. Mais lorsque il y a une menace qui pèse sur le peuple juif, il y a une cohésion tout de suite qui se remet en place. Et là, c'est en fait un service que nous ont rendu les antisémites, dont je ne rappelle que chaque manifestant pro-palestinien aujourd'hui est un raciste. Il n'y a pas de véritables manifestants pro-palestiniens, malheureusement pour la Palestine. Parce que s'ils étaient pro-palestiniens, ils ne soutiendraient pas le Hamas et le Hezbollah et la terreur s'applique aussi aux Palestiniens. Les Palestiniens ont peur du Hamas, ont peur du Hezbollah. À Beyrouth, aujourd'hui, personne n'ose danser dans les rues de voir les gens du Hezbollah éliminés parce qu'ils ont peur de se faire tabasser ou pire. Et donc, je le rappelle, ces manifestants qui manifestent pour le Hamas, pour le Hezbollah, n'ont obtenu qu'une chose, c'est ressouder, renforcer le peuple juif. Je pense qu'ils vont aussi provoquer un durcissement des législations à l'égard du racisme et de l'antisémitisme qu'ils affichent si ouvertement.
Justement, l'antisémitisme, on a vu le réveil de la Bâtie Monde depuis un an.
Oui, tout à fait, mais dans ses visages les plus laids, c'est-à-dire rien à envier au temps de l'Inquisition, du nazisme. Nous avons affaire en fait à deux niveaux. Vous avez le niveau de la rue, les niveaux estudiantins, beaucoup la jeunesse où c'est la mode de porter le kéfié alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que le kéfié signifie, ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'islam, ils n'ont aucune idée de ce qu'est le monde arabe, mais bon, c'est à la mode, c'est bien, ça a été vendu d'ailleurs très cher comme une marque de mode par le Qatar, par les frères musulmans à coût de millions de pétrodollars. Mais bon, ça, ce sont des jeunes paumés qui savent pas très bien ce qu'ils font. Vous avez le niveau beaucoup plus inquiétant, qui est celui des hommes politiques, des intellectuels, de gens qui devraient quand même mieux savoir de quoi ils parlent. Et à mon avis, ils savent de quoi ils parlent. Mais comme ils sont antisémites, ils déforment la réalité. C'est le principe même du racisme qui s'applique à toutes les formes de racisme.
Vous avez également parlé d'un changement de phase de Proche-Orient dans cet entretien sur Radio Judaïka. Pouvez-vous nous expliquer c'est cela à quoi on doit s'attendre lors de cette année qui va passer maintenant ?
Alors, le rapport de force a changé. D'abord, le point principal, c'est que la stratégie principale des Iraniens, qui sont derrière tout ça, c'était si jamais ils avaient une confrontation directe avec Israël, il s'appuyait sur le Hamas au sud et sur le Hezbollah au nord pour attaquer simultanément Israël et l'Iran, évidemment, de l'Est avec ses missiles. Or, aujourd'hui, l'Iran n'a plus le Hamas et le Hezbollah comme support stratégique et tactique militaire pour une confrontation directe avec Israël. Il lui reste encore les Houthis au Yémen, il lui reste encore quelques milices en Irak et en Syrie. Mais les deux alliés principaux sur lesquels comptait l'Iran et avec qui il a donné énormément d'argent, hein, plus qu'il n'en donne à la population iranienne, ils sont chaos sur le plan stratégique. Hein. Ils sont toujours là pour nous tirer des missiles par-ci par-là, mais ils ne sont plus en mesure d'assister les Iraniens dans une grande offensive. Et là, l'Iran maintenant se retrouve de plus en plus isolé au Proche-Orient. C'est un changement complet de la donne parce que l'Iran a moins en moins d'alliés. Il lui reste encore 2-3 cinglés hein, comme M. Erdogan, mais bon, la Turquie est aussi sous la férule de quelqu'un qui n'est pas tout à fait normal dans sa tête. Et donc, dans l'ensemble, les pays arabes tels que l'Arabie Saoudite, les Émirats, la Jordanie, voilà, et on espère aussi bientôt le Liban, ont très bien compris qu'il y avait ici un danger pour eux. Ils s'affichent peut-être des Iraniens, mais pour eux-mêmes, il y a un danger de déstabilisation de tout le Proche-Orient, et donc ça change complètement la donne. L'offensive israélienne est tout à fait acceptée, en tous les cas, rien n'est fait contre par les pays arabes au Proche-Orient contre cette offensive israélienne. Au contraire, ils se frottent secrètement les mains. Le seul problème, et ce qui est dommage, c'est que personne ne vient aider les Libanais, parce que les Libanais, à eux seuls, ne peuvent pas reprendre leur destin en main. Ils n'en ont pas les moyens alors qu'ils en ont l'occasion. Je le répète, les Libanais ont l'occasion de reprendre leur destin en main, mais ils n'en ont pas les moyens et c'est la communauté internationale, à commencer par la France, de venir les aider. Je dirais pas la Belgique parce que le gouvernement belge, c'est une blague un peu ridicule pour l'instant dans son attitude par rapport au Proche-Orient, mais la France serait capable de donner un coup de main au Liban et de l'aider. Et surtout l'armée libanaise et le gouvernement libanais à reprendre le contrôle de leur pays.
Raphaël Jérusalemi, je rappelle que vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien. Je renvoie nos auditeurs à votre analyse parue dimanche sur le site i24 News en français. Une très bonne analyse. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka.
Merci.